Alors oui, je suis plasticienne, je suis au JAD depuis un an. Je travaille en ce moment très particulièrement et je me concentre sur un matériau qui est la laine. Mais je ne vais pas du tout vous parler ni de mon travail ni de ma pratique. J'ai essayé vraiment quand j'ai appris le sujet d'intervention et que l'outil était au cœur de notre réflexion ce matin, j'ai fait l'exercice de me confronter vraiment à l'outil et d'essayer de vous parler uniquement de ça, dans un premier temps en tout cas. En effet, toute cette présentation va écarter un sujet, qui est l'IA et le numérique, volontairement. Donc cette petite mention humoristique au départ. J'ai un parcours atypique. J'ai une formation qui n'a rien à voir. Je serai peut-être une micro quand vous avez micro. Hein. Je suis artiste depuis 3-4 ans professionnelle. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'école du Louvre et j'ai travaillé 10 ans dans les grandes institutions publiques culturelles parisiennes. Devenir artiste à 40 ans, ça a été une décision une très longue gestation, et du coup une décision que tous les matins je me remets en question quelque part et que je questionne et que je tiens tant qu'elle continue de faire sens pour moi. Et dans cette démarche, la rencontre avec l'outil a été, je crois, un des éléments extrêmement moteurs.
Il y a un souci. Ok, tu peux le gérer.
Ah, tu vas, ok.
Je vais avoir besoin de support.
Oui, tu peux le gérer.
Parce que je ne sais plus du tout par quoi je vais me découvrir.
J'ai vraiment.
Il était du bon.
Voilà.
J'ai changé
Ça marchait et ça marche plus, ou il n'y a plus jamais rien eu derrière moi?
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
La différence, c'est que je suis passée dans
la machine à faire.
Normalement, il est juste capricieux.
C'est pas branché.
Et ta source fonctionne?
Sur l'écran, en tout cas,
oui.
C'est pas mon ordi. Et en partant des outils les plus costauds. Et quelque chose qui m'anime depuis maintenant une dizaine d'années et depuis aussi que je suis devenue mère de famille, c'était à partir de quand on met un outil et à partir de quand surtout on enlève les outils des mains des enfants et des plus jeunes. Et du coup, dans mon parcours personnel de formation, à quel outil j'ai eu accès et quel outil on m'a retiré et quelle a été ma démarche pour me réemparer de l'outil et reprendre le pouvoir en fait sur mes mains. Je vous disais, j'ai étudié à l'école du Louvre, j'ai fait HEC, autant vous dire que quand j'avais 20 ans et que j'étais jeune diplômée, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas tenu un tournevis ou tapé avec un marteau. Et ce que je vois dans la tendance de l'éducation actuelle, c'est que, je disais jeu de main, jeu de vilain, mais c'est de plus en plus vrai, c'est-à-dire que les quelques enseignants qui, à mon époque, m'ont donné de la colle, des ciseaux, de la peinture et le droit de me salir ou d'utiliser, aujourd'hui moi j'utilise des aiguilles en maternelle, on utilisait des poinçons, tout ça a totalement disparu de l'environnement des enfants. Et les enseignants eux-mêmes, ce sont des gens qui ont très peu d'habiletés manuelles et très souvent peu d'appétence pour ça. Et les enfants aujourd'hui sautent de 2-3 cubes un peu design, un peu joli, mais souvent beige et très décoratif, mais qui plaît surtout aux adultes, aux écrans, très vite. Je voulais vous faire partager ce constat de la volonté politique ou pas, raisonnée ou pas. Je pose la question, même si j'ai une conviction personnelle, du désapprentissage manuel. L'école est vraiment le lieu du désapprentissage manuel. Pour me former dans ma pratique, et parce que cette créativité, comme vous voulez, cette vocation, créativité, envie de le faire en tout cas, elle était impérieuse. Alors il se trouve que je vivais en Russie et c'était beaucoup plus facile à Moscou le lundi matin de décrocher le téléphone, d'appeler un artiste parce que j'ai fait son travail. Et le mardi, j'étais accueillie dans son atelier et je pouvais travailler au bout de sa table et apprendre en regardant faire. J'ai travaillé chez des conseillers, j'ai travaillé chez des céramistes. Moi, enfant, j'étais tombée dans la terre dans l'atelier de loisirs créatifs et j'avais toujours été saisie par la plasticité de ce matériau. Et c'était cet appel-là qui me devenait de plus en plus prégnant. travaillé chez des bronziers et des céramistes à Moscou pendant 4 ans. Donc ce compagnonnage, c'est aussi une valeur qui a quand même disparu de plus en plus dans mon... Enfin, depuis mon retour en France, quand je suis rentrée de Moscou, j'ai appelé la manufacture d'Auxerre et j'ai demandé si je pouvais venir travailler le lendemain. Donc finalement, j'ai fini par apprendre à utiliser des outils et les outils du métier qui m'intéressait à l'époque, tel que je l'imaginais, était celui de sculpteur ou céramiste, à plus de 30 ans. Et avec un vrai effort personnel de décrocher le téléphone, pousser des portes en permanence. Rien, il n'y avait aucune filière toute tracée. Simplement, en regardant et en échangeant avec pas mal d'autres familles, et notamment à l'étranger, j'ai quand même découvert que cette tradition pédagogique française qui a évacué donc, la couture pour les filles, le bricolage pour les enfants du temps de nos parents, au prétexte que c'était quelque chose de très genré, ce que je comprends tout à fait, mais qui a du coup jeté vraiment le bébé avec l'eau du bain. C'est pas ce qu'ont fait nos voisins dans les pays les proches, hein, vraiment juste un peu plus à l'est. Donc je me rappelle avoir été assez bousculée quand une de mes amies qui vit à Zurich me disait que le lendemain, son fils était en train de réviser son examen de machine à coudre. Il avait un examen noté, il faut savoir comment on enfilait une machine à coudre, et il était chronométré sur la rapidité avec laquelle il était capable d'enfiler une machine à coudre. Je suis parent d'élève, je vous amène vraiment dans l'intime, on n'est pas dans la théorie, mais je suis parent d'élève. Et en classe de seconde, j'étais autour de la table donc avec les enseignants, et c'est le grand moment du choix des options pour passer en première, etc. Et j'ai entendu cette phrase qui, bon, je me suis tue parce que j'allais perdre mon calme, mais sur le cas d'une jeune fille qui éprouvait apparemment des difficultés, en tout cas qui n'était pas très réceptive aux transmissions qu'on essayait de lui faire. Elle devrait suivre une formation artistique pour renouer avec la réussite. Autant vous dire, ça m'a encore frappé, mais sauté au visage le mépris en fait qu'il y avait autour de cette table pour le travail manuel et pour les compétences en fait manuelles qui n'étaient absolument pas valorisées puisque elle n'était pas bonne à l'école en maths et en physique et en français, donc elle devait sûrement donner ses mains. En tout cas, elle n'aurait aucun problème en filière artistique. Je venais de valider mon DNSEP, je voyais un peu le gap entre ce qu'imaginaient ces enseignants qui sont quand même au lycée et la réalité des attendus d'un master d'une école de Beaux-Arts. Et alors pour la blague, en tout cas, voilà des créations réalisées par un petit garçon et une petite fille qui avait moins de 7 ans en Suisse. Donc c'est des enfants qui apprennent à tricoter, à crocheter, à coudre, qui apprennent à travailler le bois, à visser, à tisser, qui apprennent des tressages complexes. L'esthétique est locale, je vous le conseille, mais l'éducation nationale française crée des consommateurs. L'éducation nationale suisse crée des gens qui savent se débrouiller. Ces gens-là, quand ils ont besoin d'une étagère, n'ont pas besoin de chez Ikea pour acheter une étagère. C'est un vrai modèle de société différent. Et l'évacuation du travail manuel sous prétexte d'évacuer des choses genrées, etc., parce que ça a été mal pensé, et à mon avis un vrai danger. Petite séquence nostalgie, je vous disais, on a tous un outil au cœur. Moi j'ai quelques outils au cœur et je crois que c'est des choses qui ont été semées dans mon enfance qui ont fini par ressurgir. Donc je vous ai amené le marteau de mon père. C'est pas une blague. Alors mon père il est nul, pas du tout doué de ses mains, j'ai aucune transmission intrafamiliale, mais il est passionné d'objets anciens, d'antiquaires, etc. Et un jour il m'a ramené ce marteau. Et je me rappelle qu'il m'a dit, regarde, il est incroyable ce marteau, il est tellement équilibré, tu ne peux jamais taper à côté. Et c'est en préparant et je l'ai gardé, je l'ai piqué, et c'est le seul marteau que j'utilise depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Et jamais je me suis tapé sur les doigts avec ce marteau, alors qu'il a un bout extrêmement étroit. En préparant ce PowerPoint, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un marteau de tapissier. Et c'est là que je vais basculer sur la pratique de l'artiste vis-à-vis d'outils. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que c'était un marteau de tapissier, je n'ai aucune compétence, je ne suis pas facteur de siège et je ne le saurais jamais, et je ne l'ai jamais utilisé comme un outil de tapissier. C'est-à-dire que j'ai passé 25 ans avec cet outil en le détournant toujours de son usage, mais en en appréciant les qualités Et je comprends que cet outil soit un outil de tapissier parce qu'il est ultra spécialisé. Je vous le fais passer, mais je pense que vous n'avez jamais tenu un marteau aussi incroyablement équilibré et balancé. Autre image un peu iconique et tutélaire, en tout cas dans ma mémoire, c'est la faux de ma grand-mère. Donc la faux, un outil que vous ne voyez quasiment plus. Alors, je vous ai mis mon cousin Germain qui vit en Suisse et qui travaille encore et qui fait encore ses petits foins à la faux.
Ça revient.
C'est-à-dire qu'on avait complètement désappris. C'est pas une transmission qu'on a eue. Ma grand-mère donc était agricultrice, mais je me rappelle enfant l'avoir vue faire ses foins. À plus de 70 ans, elle faisait 40 kilos tout habillée, elle avait une faux, et j'étais fascinée par la puissance de cette femme et de voir tous ces épis qui capitulaient avec juste un geste qui me semblait infaisable et un outil juste parfaitement adapté à son usage. Alors, je comprends qu'on se soit éloigné de l'outil, parce que l'hyperspécialisation de l'outil parfait, que ce soit le marteau, le faux ou ce genre d'outil aussi, créer une aliénation qu'on a bien vu dans les que Marx a dénoncé, qu'on a vu dans les usines, etc. Là où je pense l'artiste a un rôle social à jouer et ce qui est le moteur en fait de mon engagement, parce que je vois vraiment ma pratique artistique comme un engagement, c'est la subversion qui l'amène. C'est-à-dire que moi, ma pratique, elle est née de la rencontre avec un outil extrêmement simple, je vais vous montrer, et mon travail se nourrit de ma volonté permanente de le subvertir. Et c'est là, je crois, qu'est le propre de l'homme, que vous essayiez de cerner tout à l'heure. Donc c'est le pas à franchir et que j'essaie en permanence de franchir. J'ai commencé, je vous ai parlé de céramique, de bronze, donc mon attrait mon intérêt pour l'art vient d'une rencontre avec une matière éminemment plastique, l'argile, parce que j'ai une relation à la matière plastique un peu comme si mon cerveau était une imprimante 3D, c'est-à-dire que j'aime les matériaux plastiques qui me permettent de faire surgir dans le réel une image abstraite ou une forme abstraite. Donc je travaillais dans une conjonction entre argile, main, et je produisais des sculptures. Au moment du Covid, j'ai été ce fameux enseignant qui donnait des cours à Julien Josas à des gens très 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 âgés. Du coup, tout était claquemuré, plus d'accès à l'atelier, plus d'accès au four, et ça a été extrêmement salutaire. Puisque j'avais ramené de Russie un petit kit de loisirs créatifs pour enfants avec de la laine. J'avais vu dans le métro des grands-mères en train de piquer dans des petites boules de laine et je m'étais demandé ce qu'elles faisaient. Et voilà, pendant ces mois d'enfermement, d'un coup j'ai eu l'intuition que cette laine avait en fait les mêmes qualités que ce que moi j'appréciais dans l'argile. Et du coup, j'ai basculé d'une pratique de sculpture qui avait vocation à aller au four à une pratique de sculpture qui se suffit à elle-même et qui n'a plus besoin de cuisson. Et là, ça a été une vraie libération, d'abord pour l'accès à la couleur que ça m'a donné, puisque plus besoin de négocier pour faire des émaux avec un four. Et parce qu'en plus, étant quand même une faible femme, j'ai gagné en légèreté, plus de problèmes de logistique pour aller présenter son travail, mes sculptures pèsent quelques grammes, quelques kilos, et plus de problèmes de taille, j'étais plus obligée, pour des raisons financières, de me limiter à des bronzes qui déjà étaient un peu monumentaux, et j'avais pas besoin de négocier en fait avec la matière. Donc mon outil, c'est ça. Donc là, j'ai zoomé énormément, puisqu'une aiguille à feutrer, c'est une petite aiguille comme ça. Et je pense, madame, qu'entre le harpon préhistorique et l'aiguille à feutrer, il y a eu très très peu de développement technologique. C'est-à-dire que c'est un outil qui est un peu un outil laissé pour compte. Et je conclurai sur ça après, mais c'est une aiguille très fine, le bout est encore plus fin, et vous avez de très toutes petites aspérités qui viennent en fait attraper les fibres de laine et les mélanger. Ceux qui, quand ils avaient 20 ans, avaient des dreadlocks, ont utilisé ce genre d'outil. Mais en France, sinon, personne n'utilise cet outil-là. Je crois que je suis allée voir quelqu'un qui savait l'utiliser pendant une heure. Je l'ai regardé faire, et c'est tout, ma formation s'est limitée à ça à peu près. Après, justement, j'ai arrêté de me former sur le travail de la laine, parce que j'ai très vite vu vers quoi j'allais aller, c'est-à-dire l'industrie du textile, les savoir-faire traditionnels, le feutrage à l'eau, le feutrage au savon, je commençais à avoir des cours sur le pourcentage de rétractation de la laine, etc. Je me suis dit, waouh, moi je suis sculpteur, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais me préserver de tout ça et je vais me forcer à me confronter à l'outil, vraiment en solo et à expérimenter. Alors la première chose que j'ai fait, c'est comprendre. D'ailleurs que j'ai travaillé avec cet outil, je vous épargne les visuels de mes premières sculptures. Mais le bruit, le geste, l'odeur et cette intuition et cette conscience de la plasticité m'ont fait persévérer en fait et me dire que je ne suis peut-être pas dans une voie sans issue. Très vite est venue la volonté de partager. Vous avez compris que l'éducation est quelque chose qui m'intéresse et l'engagement citoyen aussi. Donc j'ai voulu conceptualiser, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à essayer de comprendre mon geste. Qu'est-ce qui me permettait de monter des volumes en laine? Comment je devais piquer dans la laine pour créer une boule, pour créer un aplat, etc. J'ai même écrit des livres de tutoriels, etc. Pour essayer de mettre de la distance et essayer de mettre du logos en fait, dans mon geste. Moi aussi, j'avais cette volonté de le décrire, mais plutôt de le dessiner. Donc si je résume aujourd'hui comment on doit utiliser une aiguille à feutrer, je dis, et ça fait peur à tout le monde, il faut toujours piquer de façon perpendiculaire à la tangente de la courbe que l'on souhaite créer. Voilà, mais c'est aussi simple que ça en fait. Et une fois qu'on a compris ça, oui, il faut avoir à faire un tout petit peu de géométrie, mais on peut tout faire. Et donc là, vous avez un schéma théorique que j'ai fait avec une graphiste, voilà, parce que je voulais vraiment pouvoir partager, et des dessins plus plastiques qui sont des pistes d'œuvres graphiques pour le coup. Là, c'est le premier jalon d'un travail graphique que je souhaite explorer. Et puis, une fois qu'on a compris un peu l'outil, on commence à s'ouvrir au reste. Et là, je me sentais enfin solide dans ma pratique pour m'intéresser aux outils de travail de la laine. Et là, catastrophe, parce que je me suis mis à collectionner de façon compulsive, évidemment. Donc les outils, les poignets, donc ça, c'est des outils que vous voyez qui sont tous dans mon atelier. Marion, ici présente, m'a prêté son rouet, parce que j'avais forcément envie de m'essayer au filage. J'ai pour objectif, j'espère à assez court terme, de pouvoir acheter une cardeuse électrique et une cardeuse manuelle pour pouvoir compléter, enrichir ma pratique. C'est-à-dire que de cet outil très simple, petit à petit, par cercle concentrique, ma curiosité me pousse à explorer de façon pas raisonnée, mais vraiment au gré des problématiques formelles et créatives que je rencontre dans mes projets artistiques. Je vous ai parlé de l'outil. Si je veux être parfaitement honnête, et je me suis amusée à faire ce schéma pour essayer de modéliser ma pratique artistique. Comment je génère des œuvres, et en fait, qu'est-ce qui me conduit d'une œuvre à l'autre et qui génère mes projets. Donc, je vous ai parlé de ma formation et d'un engagement. Je crois que ça, c'est vraiment le cœur du réacteur et ce qui me fait avancer et ce qui a conduit à mon basculement vers la pratique. J'ai cette rencontre avec un outil, vraiment. Donc aiguille à feutrer, puis cardeuse bureau, et puis l'outil à tisser petit à petit. Ça élargit le champ du possible de ce que je peux et de ce que j'ai envie de créer. Mais il y a aussi la matière. Je pense que notre journée est tournée sur l'outil, mais la matière, on a commencé par en parler un peu avec le cuir ce matin. La découverte de la richesse des fibres de laine liées à la diversité des sélections humaines et des animaux derrière la fibre de laine est aussi quelque chose qui me nourrit et que j'explore et que je vais donc un jour je vais utiliser de la laine cardée, puis je me rends compte qu'il y a aussi de la laine peignée, du coup je me demande comment la laine peignée plastiquement, qu'est-ce que ça pourrait donner, comment j'ai envie de l'intégrer à mon travail, puis il y a du mouton, mais il y a aussi du mouton plus rustique, puis il y a du chamois, puis il y a de l'alpaga, puis etc., etc. Ça aussi, ça fait partie des champs et des cônes d'expérimentation que je garde ouvert. Il y a tout le travail autour des techniques, et donc en effet du geste, donc le feutrage à l'aiguille qui a été le point de départ, qui me permet maintenant que ma pratique de feutrage à l'aiguille est assez, vertébrée, de m'ouvrir à d'autres types de feutrage, le feutrage à l'eau, le tricot, le nouage, cette œuvre là par exemple qui est un cœur anatomique qui est fait à partir d'art du nœud, le tissage, voilà, ça c'est aussi des pistes sur lesquelles je suis en train de travailler, notamment avec Luce Coulet qui est une artiste également en résidence au Jeanne et qui elle a en plus un barycentre vers le tissage, et enfin l'exploration des structures puisque évidemment, il y a une vraie conviction écologique aussi dans mon basculement de la céramique du bronze vers la laine. Et il est hors de question, même si je monte en volume sur des structures de plus en plus grandes, que je vienne rembourrer les structures avec des mousses ou de la méthane, des choses qui, avec lesquelles je ne me sens pas alignée éthiquement. Et donc tout un travail aussi de recherche sur la nature de ce que je, de ce sur quoi je construis mes structures en laine, donc carton, osier sur cette sculpture de carpe, de carpe textile par des appellations. Maintenant métal pour être la plus parcimonieuse possible, je veux rester sur quelque chose de très léger, voilà. Donc c'était assez intéressant en fait pour moi de schématiser ma démarche et je pense que outillé avec ceci vous pouvez maintenant voilà, si ça vous amuse, aller regarder sur Instagram mon travail et vous voyez que j'ai pas besoin d'IA pour avoir des idées, hein. Et je reviens un tout petit peu en arrière sur la conclusion, mais à l'issue de tout ce qu'on s'est dit ce matin, et je me demandais si cette conclusion, j'allais la nommer ou pas, elle n'engage que moi-même, mais je pense que on attend de l'artisan qu'il crée du beau, parce qu'ici on est toujours à se poser des questions, est-ce qu'on est plutôt artiste, est-ce qu'on est plutôt artisan, est-ce qu'on est à la limite, est-ce que finalement tout ça c'est un continuum. Je pense que tout ça est vraiment un continuum, tout est une question de curseur. Mais ma conviction, c'est que l'artiste, en tout cas ce qui moi me met en mouvement, c'est de créer du lien, de créer de la subversion, de venir mettre de faire se toucher des fils à des endroits où la société les sépare. Et typiquement, quand j'étais en résidence pendant un an chez Kajimini, faire travailler sur de la laine des ingénieurs pour venir robotiser une sculpture, ok, l'œuvre elle est installée, elle plaît pas, finalement peu importe, mais en revanche, dans cette année d'immersion dans cette entreprise, je pense que j'ai fait travailler ensemble et échanger et créer des relations interpersonnelles dans des équipes et des entités qui n'en avaient jamais, qui ne s'étaient jamais beaucoup. Et je pense que mon plus beau succès, c'est qu'une des personnes qui m'a aidé s'était licenciée avec à l'issue de cette année. Et je pense qu'il a mieux vécu son licenciement après avoir passé cette année ensemble que s'il était intervenu.
Il n'y a pas de corrélation.
Il n'y a pas de corrélation. Mais voilà, je pense que je voyais la liberté en fait que la pratique artistique a amené en entreprise et le fait de faire tomber les barrières.
C'est une discussion qu'on a eue hier, on avait des gens du laboratoire de design d'Assaut qui étaient là. À réinjecter une notion de création dans des processus qui sont tournés vers tout le monde de l'ingénierie, l'industrialisation. C'est exactement cette question. Et eux, leur travail, c'est vraiment comment ils peuvent faire renouer des gens qui sont calibrés d'une certaine façon.
Bah, moi, je suis persuadée que ce travail de l'artiste, au-delà de couvrir des formes, de faire du beau, c'est la préoccupation esthétique, et je pense que ça fait du bien, parce qu'on a besoin. Mais on est de l'ordre du psychique. Et en revanche, créer du lien, je crois que c'est un savoir-faire des artistes, parce que, comme vous l'avez vu avant, c'est intrinsèque à notre pratique, à notre façon de raisonner, à notre façon d'aborder notre travail et nos outils dès le départ. Alors justement, vraiment, créer du lien, je profite d'avoir cette tribune petite à faire un appel à partenaires. Donc j'ai 4 projets que je souhaite mener, des projets artistiques, et pour lesquels je suis... pas outillés et pour lesquels il me manque des partenaires, et notamment des chercheurs. Alors, pour rebondir sur l'IA, je suis une utilisatrice assidue des réseaux sociaux, et il y a quelques mois, peut-être un peu plus maintenant, on a eu un florilège d'images, d'objets poilus, d'objets gonflés, d'objets... Voilà. Il se trouve que je travaille une matière qui me permettait de réaliser en vrai des objets qui avaient l'air faux, qui avaient l'air d'être générés par l'IA, comme cette chaise, vous verrez tout à l'heure dans mon atelier. Et en fait, est née l'idée de créer une collection hybride de meubles, soit certains vrais, certains faux, pour jouer sur le trouble, justement. Et simplement, je ne suis pas une artiste du prompt, et ça me prend un temps fou pour créer des choses médiocres. Donc je cherchais je ne sais pas vers quel labo je devrais me tourner, soit pour finir de me former sur les prompts, parce que mes outils changent tous les 6 mois et je n'ai pas la bonne patience suivre l'évolution technologique à ce rythme-là, soit quelqu'un que ça amuserait de travailler sur ce type de projet. Donc ça, c'est ma première recherche. La deuxième recherche, je vous ai mis cette phrase un peu poil à gratter, mais qui est à peu près dans 80% de mes échanges avec des collectionneurs. Et comment on fait pour les mythes? Et en fait, je me suis tournée vers la conservatrice, la chargée de conservation préventive du musée du Louvre, qui maintenant est au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et je suis tombée vraiment d'étagère quand elle m'a dit que oui, il y avait des questions à Nairobi, oui, il y avait la cryogénisation, etc., mais ça demandait des réfrigérateurs professionnels à moins 35, mais il y avait aussi de chauffer à 55 degrés pendant une demi-heure. Ça, ça tuait tous les parasites de la laine. Et là, encore une fois, j'ai rebasculé sur mon côté citoyen, je me suis dit, mais combien je dépense et combien de gens ont des problèmes de mythe dans leur placard, alors qu'en fait, mettre un pull au four pendant une demi-heure, ça règle le problème. Et comment les lobbies, en fait, nous vendent, mais même dans les magasins naturaux, écolo, etc., on nous vend des produits extrêmement chers, totalement inutiles. Donc cette question des mythes est en fait quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais confronter mes sculptures à la destruction, parce que je travaille beaucoup, vous verrez, sur le sujet du ménatogori. Et ça fait des mois que je cherche des anthropologistes que ça intéresse de creuser ce sujet-là. Troisième projet, voilà, sur la sculpture, je l'ai effleuré tout à l'heure, mais voilà, donc j'ai fait des tests sur l'osier, j'ai fait des tests sur le métal. Ce qui est clair, c'est que je ne vais pas m'équiper ici pour faire de la soudure acier et de la découpe d'acier. L'osier, alors, je travaille la laine comme un sculpteur, ça aussi, ça fait partie de ma façon de me déclarer toujours, mais je ne suis pas quelqu'un de l'entrecroisement des fibres. Donc tout ce qui est tricot, tissage, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, mais ce n'est pas mon univers. Et donc je cherche des mousses qui ont un impact écologique minime. Je sais qu'il y a des recherches, mais là encore, je n'arrive pas à identifier des choses qui soient légères, qui puissent remplacer la mousse de polyuréthane. Je pense qu'il y a des recherches, mais j'ignore totalement quelles sont les... Alors voilà, j'ai rencontré le travail de Paul Demi, par exemple, qui travaille sur le mycélium de façon artistique. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses qui m'intéresseraient. Et enfin, je me suis rapprochée d'une designer qui a été en résidence un moment où j'ai exposé à Arcade en Bourgogne, qui s'appelle Léla Buissou, et qui est beaucoup plus bricoleuse que moi, parce que j'ai l'intuition que, moi je fais des sculptures qui, vous allez voir, peuvent faire plusieurs mètres d'envergure avec une, deux ou trois aiguilles à peu près, ce qui me prend des heures au carré. Il y a des expérimentations pour créer des robots de feutrage, sachant qu'en France on produit 14 000 ou 15 000 tonnes de laine par an et que 90% de cette laine est jetée, parce que les mousseins ne savent pas la réutiliser. Que la laine française part en Chine pour être lavée, etc. Et puis tisser, parce qu'on n'a plus de débouchés en France. J'ai été incubée longtemps dans l'association Lénarac, donc c'est des sujets sur lesquels je me suis vraiment documentée. Or, j'ai l'intuition que la laine est une matière qu'on pourrait mettre à disposition et dans les mains d'un beaucoup plus large public. Certes, des designers avec comme le projet du Luma Arm, le projet de Christiane, je ne sais jamais dire son nom, aux Pays-Bas, Mendertsma, qui a développé un robot, qui est un appareil qui feutre la laine comme une imprimante 3D un peu, et on est sur des outils d'experts. Moi, je pense, et Léla rejoint mon idée, et je voudrais monter un vrai dossier de financement pour chercher des partenaires, qu'entre le tuftingen qui est en train de se démocratiser et un travail sur les alliages des aiguilles à feutrer qui sont beaucoup trop fragiles, mais parce qu'il n'y a pas de financement sur la recherche sur cet outil qui n'a pas évolué depuis le harpon. Je pense qu'en rendant les aiguilles à feutrer plus robustes et en développant une technologie ou en adaptant le tuftingen aux aiguilles à feutrer, il y aurait moyen de créer des objets en volume en 3D et de donner un nouveau débouché très grand public à la laine qu'on jette aujourd'hui. Mes quatre pistes pour lesquelles je cherche des partenaires.
Est-ce que tu es lié à l'atelier de Menton quand tu étais chez Lénarac? Ils ont intégré récemment un robot.
Non,
je
suis allée chez Menton.
Voilà. Alors, c'est pas du.
Ils teufent à plat.
Oui, ils teufent à plat.
Et la seule qui teufte en volume, c'est Christiane, parce qu'elle teufte par touches successives. Mais là, un bras robotisé qui peut coûter. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialisé sur la laine, donc elle a vraiment 10 000 cordes à son arc.
Je ne suis pas sûre que l'outil va être industrialisé à court terme et open source. Nous, on aimerait vraiment faire quelque chose d'open source qui permette de démocratiser le travail de l'année, parce que c'est sûr qu'avec une petite équipe, c'est assez décourageant pour la plupart des gens s'investir.
Pour les mythes, est-ce que vous êtes tourné vers le Muséum d'histoire naturelle ?
Alors, c'est en cours, j'ai toujours pas trouvé la porte d'entrée. C'est un peu compliqué, mais oui. Et surtout, j'ai découvert que le Mobilier National a des sujets sur son anti-mythe, qui n'est pas si inoffensif que ça. Et du coup, j'ai surtout manifesté mon intérêt de me rapprocher sur ces études-là et sur ces recherches. Et je viens d'identifier un chercheur dans le sud de la France, je crois qu'il est basé à Toulouse, qui a fait des travaux sur la conservation de l'avion. Donc je me réjouis à l'avance de la prochaine vidéo que j'ai avec lui. Mais tout ça pour vous dire qu'on est immergé dans nos pratiques et dans nos ateliers, dans nos problématiques de financement, de vente, de clientèle, d'exposition, etc. Finalement, les artistes ont peu de temps passant pour aller chercher des acteurs du côté du CNRS et des universités, des labos de recherche. Et donc, vraiment, j'ai béni l'annonce de cette journée et de la découverte de ce programme CAR. Simplement, je m'étonnais que dans les tout premiers slides qu'on a vus et les personnes qui gèrent le programme, finalement, qui représentait les ICC, puisque j'ai vu deux représentants du CNRS, mais où est la demande issue de la base ? Je ne sais pas comment c'est porté. Parce que finalement, je me disais qu'on parlait des biais tout à l'heure, mais je pense qu'un chercheur va avoir un très fort biais sur la réalité des ICC et sur les zones prioritaires, les attentes, etc. Et comment sur ces journées sont là pour faire des rencontres. Hein, mais
justement, sur chaque filière, il y a dans les triangles, il y a un représentant du secteur professionnel. Et dans notre cas, du coup, c'est l'Institut des savoir-faire français. Mais c'est sur toutes les filières, c'est la même chose.
Merci pour la présentation. J'ai un commentaire ou une question. Mon commentaire, c'est par rapport au geste que vous avez fait. Et ça me fait penser à l'Islande, les hommes font du tricot, les femmes et les hommes pendant l'hiver. Et il y a énormément d'études en psychiatrie, des lettres que ça peut apporter ces gestes répétitifs et manuels pour soigner des dépressions.
Moi, j'ai pas besoin d'aller chez le psy, de passer.
Je pense que ça va être
d'abord, la laine et le suin, ça va. Il y a vraiment un effet thérapeutique et je ne suis pas du tout quelqu'un de croyance ésotérique, etc. Mais je suis quelqu'un de très impatient et je n'ai toujours pas compris comment je pouvais m'astreindre à un travail aussi répétitif et lancinant. Mais en fait, il y a un effet hypnotique, je ne dirais pas thérapeutique, mais vraiment apaisant et très positif en fait de ce travail.
Oui, mais c'est ça.
Je m'offre le luxe de s'autoriser à le faire.
Mais effectivement, c'est une thérapie clinique, en fait, c'est utilisé, il y a certains psychiatres qui le font, donc effectivement, il y a du bien-être, et ça crée du bien-être, justement, que ce soit du tricot, et c'est vraiment les gestes manuels. On voit qu'il y a une impronte au niveau du cerveau, et ça change complètement. On sait qu'il y a l'écriture, par exemple, que ça augmente la mémorisation, etc. C'est les gestes, l'écriture, c'est pas tant le fait d'écrire ou de lire, c'est vraiment les gestes. Donc le geste, il a un impact sur la connaissance de choses. Donc ça,
oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'école l'a compris pour l'écriture, parce que les enfants ont appris comment écrire, et ils ne vont plus jamais écrire à la maison de leur vie après, mais sur le reste, non.
Alors c'est pas complètement abandonné, moi j'ai eu le plaisir de participer à la création d'un programme qui s'appelle Manufacto, et qui vise à introduire la pratique artisanale à l'école.
Introduire, c'est ça qui est grave. Il n'a plus les compétences.
Oui, et puis c'est elle tout sortie d'échelle.
Il y a aussi Gabriel qui fait de l'or dans les mains et qui.
Oui, mais le programme en Suisse, c'est pour tout le monde. Alors avec
un. C'est vraiment une question de culture. En Suède, je cherchais dans mes notes, il y a un mouvement qui s'appelle, à un moment donné, qui se dit la semaine sport, mais le nom, je l'ai écrit, mais c'est difficile. Hein. C'est Slug Fluentine de Rémi Carva. Et qui date de 1845. Qui visait à donner de l'autonomie et de l'autosuffisance. Et ça a quand même donné Hans Wegener, ça a quand même donné Ligia, avant les dérives, Ligia était quand même une direction vertueuse. Donc c'est vraiment une question culturelle et une question sociétale. Donc, c'est extrêmement intéressant ce que tu touches du doigt sur la nécessité de réincarner le rapport au.
Si on est dans une volonté de décroissance et qu'on partage tout ce constat qu'il y a une vengeance.
Alors, c'est tellement partagé ce constat, peut-être qu'on se sentirait moins seul. Je ne suis pas convaincu qu'il soit partagé. C'est malheureux, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit partagé. Après, je pense que
quand
quand on voit une Guenon apprendre à son bébé à utiliser un bâton, on est éblouis. Donc voilà, une Guenon lui apprendre à appuyer sur le bouton pour avoir une banane, on saura que cette espèce est quand même bien menacée. C'est quand même un constat très
point de la rue de fer.
C'est extrêmement préoccupant et je n'ai lu aucune littérature sur le sujet, à part des programmes mais qui n'ont qui jamais le financement en fait, pour irriguer et pour être porté au plus haut.
C'est même si vous avez des jolies initiatives. Alors,
moi, à mon niveau, j'écris des livres de loisirs créatifs pour enfants en disant c'est toujours ça, la transmission intrafamiliale, au moins ils auront ce genre de bouquin. Mais j'ai l'impression de faire un peu.
Mais je pense que la question de la place de l'artisanat dans le développement personnel est très intéressante. Elle peut être vue de façon un peu péjorative. Mais c'est Richard Sennett dans Ce que c'est la main qui parle, je crois, de Ruskin en disant que c'est quasiment l'inventeur du développement personnel par rapport à l'artisanat, parce que ça n'a rien à faire, comme il y a entre anglais et moi, c'est un peu différent. Et il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que cette reconnexion, elle est nécessaire. On va dans des salles de sport aujourd'hui parce qu'on n'a plus d'efforts physiques. Quand on n'aura plus besoin d'utiliser notre cerveau, peut-être qu'on ira dans des salles de réflexion, je pense. Et la question de la reconnexion au réel, elle est fondamentale. Et je pense que notre perte de conscience du rapport à l'environnement, il vient aussi du fait qu'on ne touche plus les choses, on ne sent plus la matière. Donc finalement,
la
notion de causalité et le continuum, pour reprendre l'histoire du baroque, il est interrompu.
Je propose qu'on poursuive en bas, parce que j'ai retrouvé, on a encore d'autres conflits, mais on va patienter.